présenté par Eve Bartin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Aujourd'hui, Lisa est avec moi, elle participera aux émissions pendant les 3 prochaines semaines. Ce soir, tu nous parles de King Kong Théorie de Virginie Despentes, c'est bien ça ?
Ouais, c'est ça.
Ce sera en tout début d'émission. Sinon, je vous parlerai de Sofia Coppola et de la traîne 2026 et le nouveau 2016. Je vous propose de démarrer cette émission avec le titre Maybelline de Gretel. Lisa, tu nous parles de lecture ce soir.
Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre. Il se nomme King Kong Theory. Il est écrit par Virginie Despentes, publié en 2006 aux éditions Grasset. C'est un roman autobiographique de l'autrice qu'elle décrit comme un manifeste pour un nouveau féminisme. Ce qui émerge dans son roman, c'est la question du regard des hommes sur les corps des femmes. Et surtout, l'ouvrage montre comment la société intègre dans les esprits féminins que leur corps est destiné au plaisir des hommes. Le livre est une véritable entreprise de reconquête où Virginie Despentes met en place une défense du corps des femmes en prenant qu'elles doivent disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Pour développer son argumentaire, Virginie Despentes s'inspire de son propre parcours et de son expérience en tant que femme du début des années 2000. Elle évoque des passages marquants de sa vie, comme son viol ou lorsqu'elle se prostitue. Ce sont d'ailleurs des thèmes qui vont marquer son parcours littéraire et revenir à plusieurs reprises dans ses différents ouvrages, comme dans Bye Bye Blondie ou encore Baise-moi. Au-delà de son parcours littéraire, les questions soulevées par King Kong Theory en 2006 sont les mêmes que celles posées par l'affaire Harvey Weinstein qui secoue Hollywood en 2018 et lance le mouvement de libération de la parole autour de violences sexistes et sexuelles MeToo en 2018. Virginie Despentes, pour l'époque à laquelle elle écrit arbore un regard novateur puisqu'elle dénonce des aspects de la société qui vont être dénoncés 11 ans plus tard. Mais alors, pourquoi le livre évoque King Kong dans son titre, ce monstre gorille, figure emblématique de la science-fiction, alors que ce n'est visiblement pas un livre pour les geeks dans des années 2000 ? L'autrice va bel et bien s'inspirer de King Kong, et plus particulièrement du film King Kong de Peter Jackson, réalisé en 2005. Dans le film, une jeune femme interprétée par Naomi Watts est capturée par la bête sauvage. Or, elle refuse de se laisser faire et elle parvient à dompter l'animal. Ici, le titre fonctionne comme une métaphore. La King Kong théorie, c'est la théorie qui revient à dire que les femmes doivent agir comme Naomi Watts en refusant la soumission et en prenant le contrôle de la bête sauvage qu'est le patriarcat. Alors si je vous parle de King Kong théorie, c'est d'abord car c'est un point de passage important de la littérature féministe du 21e siècle, mais aussi car du 27 au 29 janvier 2026 se produira au Théâtre des Quinconces du Mans son adaptation réalisée par Vanessa Larré. Cette dernière est une actrice et metteuse en scène suisse. Elle coproduit la pièce King Kong Theory en 2014 en façonnant un spectacle aussi audacieux que le roman d'origine. En effet, Vanessa Larré met en scène un texte initialement peu adapté pour le théâtre et lui donne vie à travers trois comédiennes. Pour la dernière représentation, le 29 janvier, la pièce sera suivie d'un DJ set de 21h30 à 22h30 de la DJ Mancelle Bunzen. Alors je vous invite à aller voir la pièce afin de mieux saisir le propos de Virginie Despentes en espérant que cela vous plaise.
Merci Lisa, on mettra toutes les infos sur les pièces de théâtre dans la description du podcast. Je vous propose donc d'écouter 1901 de Phoenix pour poursuivre. Ideas drifting away.
rise to great. No lolly, I won't break to see you shine like a stained glass thing.
Pardon, ça a coupé tout seul. Si vous nous rejoignez maintenant sur Radio Alpa, vous êtes toujours dans l'amphi. Nous venons d'écouter Holy Bones de Bambara. Je vous propose de poursuivre avec le titre Cérébral de Mosai Mosai. We'll be right back. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans dans l'émission L'Amphis, l'émission étudiante. Je vous propose de parler un peu de la fameuse trend 2026 et le nouveau 2016. 2026 is the new 2016. Depuis quelques mois et surtout depuis le début du mois, une phrase revient partout sur les réseaux, 2026 et le nouveau 2016. Au premier regard, ça peut sembler bizarre, 2016 c'est pas si loin. Et pourtant, pour beaucoup de jeunes, cette année est devenue une sorte de mythe. Alors pourquoi 2016 ? Parce que dans l'imaginaire collectif, c'était une époque où tout était plus simple, un internet moins sérieux, moins anxieux, des mèmes partagés par tout le monde, pas seulement par des niches. On se rappelle du mannequin challenge, des filtres Snap, de Vine, de YouTube, encore un peu amateurs. La pop culture semblait plus spontanée, plus fun et moins calculée. Dire 2026 est le nouveau 2016, ce n'est pas vouloir retourner vivre exactement à cette époque, c'est surtout exprimer une nostalgie émotionnelle, une envie de retrouver un sentiment d'insouciance, de légèreté, surtout après des années marquées par la pandémie, les crises, l'éco-anxiété et la pression constante d'être productif, performant, visible. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont ultra optimisés, tout est monétisé, analysé, comparé. On construit une image, un branding personnel et face à ça, 2016 apparaît comme un moment où on postait sans trop réfléchir, juste pour s'amuser. La trend dit en creux qu'on est fatigué, fatigué d'une perfection, des algorithmes, de l'urgence permanente. Ce retour à 2016, il se voit aussi dans la musique, la mode, les visuels, le revival pop, les looks colorés, le comeback de son plus léger. Mais attention, c'est pas une copie, c'est une réinterprétation. On garde ce qui faisait du bien, on laisse le reste. La mode, de toute façon, c'est cyclique. En réalité, cette tendance raconte surtout quelque chose de présent. Elle montre un besoin de communauté, de références communes, de fun partagé. Un besoin de ralentir, de respirer, de reconnecter avec une culture plus collective. Non, 2026 ne sera jamais vraiment 2016, mais si cette phrase existe, c'est parce qu'elle traduit un désir fort, celui de retourner à un internet et peut-être une vie un peu plus libre, un peu plus joyeuse et surtout plus humaine. Je vous propose de marquer une courte pause musicale avec les Clash, Lost in the Supermarket.
Special offer. I'm all lost. I can't no longer shop.
vient tout juste d'écouter Killer Hooligan Partie de Lauren Dowsing, Quatuor Tourangeau du label River Tapes. J'avais, comme je vous le disais dans l'intro, j'avais envie de parler du cinéma de Sofia Coppola. Et donc ce cinéma, il se distingue immédiatement par son atmosphère singulière. Il n'y a pas d'action spectaculaire et pas d'intrigue complexe. Il préfère les silences, les regards, les moments suspendus. Dès ses premiers films, Sofia Coppola impose un style reconnaissable, fait de lenteur, de mélancolie et de douceur. Son cinéma, il s'intéresse moins à ce qui arrive aux personnages qu'à ce qu'ils ressentent intérieurement. Cette approche intime et sensorielle touche particulièrement les jeunes générations, souvent confrontées à des périodes de doute, de transition et de questionnement identitaire. Au cœur de son œuvre se trouve une réflexion profonde sur la féminité. Sofia Coppola filme des femmes et des jeunes filles à des moments clés de leur existence, souvent enfermées dans des cadres sociaux, familiaux ou médiatiques qui les dépassent. Dans Virgin Suicides, la féminité adolescente est perçue à travers un regard extérieur, masculin, presque voyeur. Les sœurs Lisbonne deviennent des figures fantasmées, privées de parole, prisonnières d'une image qu'on projette sur elles. Cette absence de voix souligne la difficulté pour les jeunes filles de se construire dans un monde qui les observe constamment. Dans Marie-Antoinette, Sofia Coppola revisite une figure historique connue pour son excès et son extravagance. Mais elle choisit de la montrer avant tout comme une adolescente déracinée, ce qu'elle était, arrachée à son pays, plongée dans un univers de règles strictes et d'apparence. Marie-Antoinette apparaît isolée, incomprise, cherchant refuge dans le divertissement, la fête et la consommation. À travers elle, Sofia Coppola questionne la pression sociale exercée sur les jeunes femmes, sommée d'incarner un rôle sans avoir eu le temps de se découvrir elle-même. Les personnages féminins de Sofia Coppola ne sont jamais des modèles héroïques. Ils doutent, s'ennuient, fuient parfois leurs responsabilités, mais la réalisatrice ne les condamne jamais. Elle adopte un regard empathique, presque bienveillant, qui laisse place à la complexité. Cette représentation imparfaite et fragile de la féminité permet une identification forte, notamment chez les étudiants et les jeunes adultes, qui peuvent reconnaître leurs propres hésitations et contradictions dans ces figures de fiction. La musique occupe une place centrale dans le cinéma de Sofia Coppola. Elle ne sert pas uniquement à accompagner l'image, mais à traduire les émotions invisibles des personnages. Les bandes originales, composées de rock indépendant, d'électro ou de morceaux mélancoliques, crée une ambiance introspective et contemporaine. Dans Lost in Translation, la musique accentue le sentiment de solitude et déracinement vécu par les personnages dans une ville étrangère. Tokyo devient un décor bruyant et lumineux, mais paradoxalement isolant. La musique agit alors comme un refuge intérieur, un espace intime où les personnages peuvent exister en dehors du regard des autres. Dans Marie-Antoinette, l'utilisation de musique moderne avec un film d'époque constitue un choix fort. En intégrant des morceaux de rock ou de new wave à un récit historique, Sofia Coppola établit un lien direct entre le XVIIIe siècle et le monde contemporain. Elle rappelle que les émotions de la jeunesse, l'ennui, la révolte, la recherche de liberté sont universelles et intemporelles. Cette modernité musicale rend son cinéma particulièrement accessible à un public jeune qui s'y reconnaît instinctivement. Visuellement, le cinéma de Sofia Coppola repose sur une esthétique soigneusement construite. Les couleurs pastels, les lumières douces, les teintes roses, dorées et violettes créent des univers élégants et séduisants. Chaque plan semble composé comme une photographie. Pourtant, cette beauté visuelle n'est jamais superficielle. Elle sert à mettre en contraste l'apparence et le vide intérieur. Derrière les décors luxueux, les hôtels de prestige, les villas ou les palais se cachent souvent une profonde solitude. Dans The Bling Ring, cette opposition est particulièrement frappante. Le film suit un groupe d'adolescents fascinés par la célébrité, les marques et le luxe, les réseaux sociaux, la mise en scène de soi et la consommation excessive deviennent des moyens de se donner une identité. Mais plus les personnages accumulent des objets, plus leur vide existentiel devient évident. Sofia Coppola dresse ainsi un portrait critique d'une jeune femme obsédée par l'image et la reconnaissance sociale, une thématique qui fait fortement écho aux pratiques numériques actuelles. Les thèmes abordés sont récurrents et profondément contemporains. La solitude est omniprésente, mais il ne s'agit pas d'une solitude tragique ou dramatique. C'est une solitude silencieuse, diffuse, qui peut exister même au milieu du succès et du confort matériel. L'ennui, souvent perçu comme négatif, devient chez Coppola un révélateur. Il permet aux personnages de prendre conscience de leur malaise, de leur déconnexion avec le monde qui les entoure. La question de l'identité traverse l'ensemble de son œuvre. Ces personnages sont souvent à un moment charnière de leur vie, entre ce qu'ils sont et ce qu'ils devraient être. Ils cherchent un sens, sans toujours le trouver. Cette errance identitaire fait écho aux préoccupations des étudiants, confrontés à un choix d'orientation, à des injonctions de réussite, à la pression sociale. Le cinéma de Coppola offre un espace de reconnaissance où le doute n'est pas une faiblesse, mais une expérience partagée. Le film lent, le rythme lent de ces films peut surprendre, voire déstabiliser. Il s'oppose au standard d'un cinéma rapide et narratif, mais cette lenteur est essentielle. Elle laisse le temps à l'émotion de s'installer, à l'image de respirer. Sofia Coppola ne cherche pas à expliquer ou à conclure, elle préfère suggérer, laisser des zones de flou. Ses fins ouvertes prolongent la réflexion bien après le générique. En définitive, le cinéma de Sofia Coppola propose une expérience sensible et introspective. Il explore la féminité, la jeunesse, la solitude et la quête de sens avec une grande délicatesse. À travers la musique, les couleurs et les silences, elle capte des états émotionnels universels dans un monde saturé d'images, de bruits et d'injonctions à la performance. Son cinéma offre une pause, un moment de recul, un cinéma qui ne donne pas de réponse toute faite, mais qui accompagne les spectateurs dans leur propre questionnement. Et c'est précisément ce qui le rend si précieux pour une génération en construction. Je vous propose de poursuivre avec You Ha 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 de Charlie XCX, sorti en 2013, qui peut être... Ah, en tout cas, qui a sa place dans le film Bling Ring de Sofia Coppola, dont on a parlé juste avant.
I was right.
C'est déjà la fin de cette émission. On vient d'écouter Cobra Music 4 de Braco. Vous pourrez réécouter cette émission en rediffusion de 9h à 10h demain sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme de diffusion préférée. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour la playlist hebdomadaire.
Présenté par Eve Martin.